Elles sont de plus en plus au centre de l'attention médiatique et citoyenne. Les commissions d'enquête parlementaires, dont la variété, l'intérêt croissant qui leur est porté, sont le signe d'un progrès démocratique. Ces commissions, organisées par des parlementaires, s'attaquent à des sujets nombreux, les aides publiques aux grandes entreprises, la lutte contre la délinquance financière, les violences sexistes et sexuelles, le nucléaire, les violences dans les établissements scolaires publics et privés, l'attribution des chaînes de la TNT et bien d'autres sujets. Mais alors, comment s'organisent-elles? Quels sont leurs pouvoirs réels? Comment améliorer encore leur fonctionnement? Pour en débattre, trois invités ce soir. Sandrine Rousseau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée écologiste de Paris. Vous avez présidé la commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. Face à vous, Vincent Brenot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Auguste Debouzy. Vous avez conseillé plusieurs entreprises et dirigeants convoqués dans des commissions d'enquête parlementaires. Et avec nous, à distance, Dorothée Régnier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en droit public à Sciences Po Lille. Vous êtes spécialiste des assemblées parlementaires sous la Ve République. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du Soir.
Notre commission d'enquête a entrepris d'évaluer l'ampleur du recours par les personnes publiques à des prestations de conseil et d'en comprendre les ressorts ainsi que les modalités.
Le sort des enfants de l'aide sociale à l'enfance trop tôt livrée à eux-mêmes, il en sera question dès le début de ce journal, alors qu'une commission d'enquête parlementaire va bientôt commencer ses auditions.
Monsieur le Président, chers collègues, vous le savez, notre commission d'enquête n'est pas une commission d'enquête Nestlé. Notre mission, elle est de faire la lumière sur les pratiques des industriels du secteur et sur leurs actions.
Bonjour, y aura-t-il une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betarame? Question tranchée aujourd'hui.
Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas.
Mais est-ce que vous avez pris la décision de vous poser la question de comment faire un film où tout le monde se sente bien? De la technicienne qui, jusqu'à maintenant, souvent entendait un propos sexiste, jusqu'à la comédienne qui peut avoir des relations tendues, conflictuelles, voire qui vont plus loin parfois que le cadre légal avec le réalisateur ou la réalisatrice.
Et une question toute simple pour commencer, Sandrine Rousseau. J'ai dit l'attention médiatique et citoyenne qui est portée à ces commissions va croissant. Comment vous comprenez la raison d'être de ces commissions, même comment vous l'abordez en tant que parlementaire, en tant que député?
Ces commissions d'enquête font partie des rares pouvoirs de contrôle qu'a le Parlement et les députés du Parlement. Et ces commissions d'enquête ont un objectif qui est d'explorer quelque chose où manifestement il y a un manque de loi ou un manque de régulation et d'essayer de proposer des lois qui correspondent aux besoins du secteur. Donc là, sur ma commission qui était sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma, de la culture, du spectacle vivant, eh bien, on a vu qu'en effet, il manquait un cadre sur nombre de situations qui peuvent exposer à des violences sexistes et sexuelles. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de... Je dois dire qu'elles prennent énormément de temps, ces commissions. Elles demandent un travail parlementaire tout à fait conséquent. Et il est très important de se consacrer sérieusement à cela pour derrière faire des propositions de loi qui correspondent véritablement aux problèmes soulevés.
Vous dites que le Parlement a peu de pouvoir, que les députés ont peu de pouvoir. Ces commissions d'enquête, c'en est le contrepoint. C'est un moyen, j'allais dire, d'augmenter cette capacité, votre capacité d'agir, de réfléchir?
Ça fait partie d'un pouvoir de contrôle, oui, du Parlement. Et il est très important que nous puissions le faire. Alors, je rappelle que c'est pas une commission d'enquête, ça ne remplace pas la justice, excusez-moi, c'est complémentaire à cela, c'est une manière d'explorer un sujet pour proposer une loi. Mais il n'y a pas de sanction, c'est-à-dire que même une personne qui nous donne des éléments qui pourraient tomber sous le coup de la loi, il n'y a aucune sanction à l'issue de la commission d'enquête. Éventuellement, on peut signaler au procureur des faits qui ont été portés à notre connaissance, mais on le signale précisément pour que la justice s'en empare. C'est-à-dire que c'est pas aux députés de faire ça. Par contre, les députés ont à connaître la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sur un ensemble d'éléments, donc que ce soit les violences sexuelles, le détournement d'argent, la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et plein d'autres, pour derrière faire des lois qui permettent d'arrêter les dérives qui potentiellement peuvent apparaître dans ces commissions.
Vincent Bruneau, je sais que vous êtes plus critique à l'égard de ces commissions. Vous avez fait paraître une tribune dans le Figaro justement à ce sujet. Mais avant cela, est-ce que vous reconnaissez qu'elles représentent d'une façon générale un progrès pour notre démocratie ?
Alors, de mon point de vue, les commissions d'enquête sont des instruments qui sont absolument nécessaires à l'exercice de notre démocratie. Alors, je ne sais pas si le Parlement...
Faut le dire, faut commencer par là.
Oui, non, mais c'est de la stricte vérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès 1958, une ordonnance les a créées. Elles ont été ensuite constitutionnalisées nettement plus tard. Mais les commissions d'enquête, c'est avant tout le contre-pouvoir dont dispose le Parlement vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et c'est peut-être là où on a une petite difficulté de mon point de vue, c'est que les commissions d'enquête, elles ont pour objet de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. C'est vraiment le contre-pouvoir du pouvoir législatif à l'égard du pouvoir exécutif. On est en plein Montesquieu, la séparation des pouvoirs, ça fonctionne bien, et c'est le fondement de notre démocratie lorsque un pouvoir est contrebalancé par un autre pouvoir, et les commissions d'enquête sont exactement les modalités d'exercice de ce contre-pouvoir. Ce qui me dérange un tout petit peu plus, c'est que, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, c'est que leur objet a tendance à glisser parfois un petit peu pour se transporter du contrôle du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques vers la gestion des entreprises privées, et donc un sujet qu'il n'aurait pas assigné initialement. Et effectivement, je dis juste un instant, je suis tout à fait d'accord, ça ne remplace pas la justice, fort heureusement, parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes garanties, on en reparlera.
Dorothée Régnier, comment est-ce que vous comprenez justement cette tension ? À l'origine, ces commissions ont vocation effectivement à contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, leur champ d'action, d'intervention, de réflexion est bien plus large.
Mais en fait, dès 1958, l'action des commissions d'enquête n'a pas été limitée au contrôle du gouvernement, de la gestion des services publics ou des entreprises nationales. On a déjà prévu que les commissions d'enquête peuvent se former pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés. Et en fait, la commission d'enquête, elle se rattache certes au pouvoir de contrôle du Parlement, mais elle se rattache d'abord au pouvoir de faire la loi. Et quand le Parlement fait la loi, il ne fait pas la loi seulement pour les services publics ou pour les entreprises nationales. Il fait la loi pour tout le monde et il va encadrer ou réguler l'activité de personnes ou d'opérateurs privés.
Sornay Nosso, vous êtes sur cette même ligne-là. Dans le fond, c'est bien plus pour alimenter la réflexion qui viendra nourrir ensuite la réflexion législative, bien plus que pour contrôler stricto sensu l'action du gouvernement.
En fait, c'est une politique publique. C'est-à-dire que, par exemple, sur la commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le monde de la culture, l'idée était de savoir quelle politique publique on doit mettre en œuvre, quelle politique publique doit être arrêtée, modifiée, changée. Et donc, c'est profondément l'objet d'une commission d'enquête. Alors, pourquoi c'est une commission d'enquête et pourquoi ça n'est pas juste une série d'auditions ? Parce que quand on fait des lois, on fait aussi des auditions. On reçoit des acteurs importants du secteur sur lequel on réfléchit.
Ça pourrait être du travail en commission, tout simplement.
Voilà. Mais là, c'est une commission d'enquête parce qu'on s'attache à des choses dont on pense qu'il y a une part cachée, masquée, qui rend inefficaces les politiques publiques. Typiquement, sur les violences sexistes et sexuelles, il était important de faire jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, pour que derrière, on puisse comprendre quels étaient les mécanismes d'empêchement de la parole, d'impunité des personnes qui sont l'objet d'accusations, et quels sont les mécanismes un peu cachés qui favorisent cela. Par exemple, on a soulevé des choses qui pouvaient relever du droit de la concurrence, ce qui n'était pas du tout l'objet initial de la commission. Et si vous nous aviez posé la question au début de la commission d'enquête, probablement que nous n'aurions jamais cité cela. Et pourtant, ça va faire partie des objets sur lesquels nous allons légiférer. Donc, ce cadre un peu formel, le fait de jurer de dire la vérité, et nous, parlementaires, quand on voit qu'il y a une personne qui ne dit pas la vérité, notre possibilité de saisir le procureur pour parjure oblige d'une certaine manière à une parole qui soit transparente et donc qui nous permet véritablement de légiférer au bon endroit.
Alors quand est-ce que ces commissions d'enquête vont trop loin, Vincent Bruneau, selon vous ? Quand est-ce qu'elles interviennent là où elles ne le devraient pas ?
Lorsqu'elles n'enquêtent plus sur un fait donné, sur une politique ou sur le contrôle du gouvernement, mais lorsqu'une entreprise devient l'objet de la commission d'enquête, soit qu'elle en soit l'objet initialement, soit que, par la force des choses, on l'a vu avec la commission d'enquête dite McKinsey, en fait, son nom initial, c'était la commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques, c'est devenu la commission McKinsey. Et de fait, McKinsey a reçu un traitement très particulier durant cette commission d'enquête.
Je rappelle que j'ai lu, en tout cas, que vous conseillez McKinsey, justement, dans cette affaire. Il faut peut-être le préciser par souci de transparence.
Absolument, absolument. Donc, l'idée, c'est que la loi doit être générale. Et donc, effectivement, la commission d'enquête a pour but d'améliorer le travail législatif, mais le travail législatif ne peut pas précisément porter sur une entreprise ou un individu en particulier. La loi s'applique à tous. Et donc, quand une commission d'enquête se retrouve à être focalisée sur une entreprise donnée ou un individu donné, pour moi, elle est dévoyée de son objet.
Sandrine Rousseau, une réaction. Est-ce que là aussi, quand on centralise une réflexion qui est censée irriguer, innerver une politique publique, quand on se concentre sur un individu donné, une entreprise donnée, est-ce que c'est le rôle du Parlement, de l'Assemblée en l'occurrence ?
Alors, je n'ai pas connaissance d'une commission qui se soit focalisée sur une seule entreprise. On peut faire un focus sur une entreprise ou sur un aspect du sujet en particulier. Et ça, c'est normal si on estime qu'il y a des choses à creuser particulièrement avec cette entreprise. De mémoire, là, c'était la question des liens qu'il pouvait y avoir entre le pouvoir et cette entreprise et quels étaient les liens en amont des élections dans les campagnes électorales et a posteriori. Donc, évidemment que ça, c'est très important d'investiguer parce que ça dit quelque chose de pourquoi il y a un recours à McKinsey en particulier. Mais l'idée n'est jamais de réduire sur une seule entreprise. Là, il y a une commission d'enquête actuellement sur Betaram, donc sur l'école privée Betaram, qui évidemment va chercher plein d'autres établissements privés. Et on l'a vu d'ailleurs avec des auditions très récentes. Donc évidemment, on peut faire des focus et c'est important quand il y a un sujet particulier, mais ça ne s'adresse jamais à une seule entreprise ou à un seul...
Une réaction, Vincent Bruno, après j'interrogerai Dorothée Régnier.
Oui, non, je ne suis pas sûr que TikTok, Uber, Total Energy ou encore Lactalis soient tout à fait d'accord avec l'idée qu'il n'y a eu qu'à pas de commission d'enquête dédiée à une entreprise en particulier. Il y a quand même... Ces entreprises-là ont fait l'objet de commission d'enquête.
Alors TikTok, c'est sur... Pour préciser, TikTok, c'est sur les effets sur les adolescents, justement, de l'usage récurrent de TikTok.
De TikTok.
Voilà. Et Total, c'était sur un champ plus large, hein, sur la dimension climatique de l'entreprise.
Et puis aussi sur les exactions de droits humains d'entreprises françaises à l'étranger, ce qui n'est quand même pas un petit sujet, quoi.
Dorothée Régnier,
pardonnez-moi, les exactions alléguées.
Alléguées, bien sûr.
Dorothée Régnier, qu'est-ce que la réforme constitutionnelle de 2008 a modifié, a transformé justement du point de vue de l'organisation de ces commissions parlementaires ?
Donc la réforme constitutionnelle en 2008 va reconnaître au niveau constitutionnel l'existence des commissions d'enquête, ce qui n'était pas le cas avant, et va permettre aux deux chambres de reconnaître des droits particuliers aux groupes minoritaires ou aux groupes d'opposition. Et aujourd'hui, chaque groupe se voit reconnaître un droit de tirage, en fait, la possibilité de droit d'obtenir la création d'une commission d'enquête une fois par session, sous condition que celle-ci soit recevable, c'est-à-dire qu'elle n'empiète pas sur une enquête judiciaire ou qu'elle ne cherche pas à déterminer une éventuelle responsabilité du chef de l'État.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous-même, en tant qu'observatrice de Dorothée Régnier, du Parlement, de l'Assemblée en particulier, est-ce qu'il vous semble que, parce que les députés ont le sentiment que leur pouvoir s'effrite, qu'ils sont peut-être dans un moment où ils ont du mal à dessiner des majorités, ces commissions d'enquête parlementaire sont pour eux comme une espèce de refuge qui leur permettrait de mieux agir et d'agir plus avant, notamment en interaction de contrôle avec le gouvernement ?
Il y a le mouvement évidemment de médiatisation qui permet à 30 députés ou 23 sénateurs d'être un peu sous le feu de la rampe pendant les travaux de la commission et jusqu'à la remise des rapports. Donc évidemment c'est un élément qui doit être pris en compte, mais on a quand même finalement des spécialistes des questions qui s'accordent pour constater qu'il y a un problème à un moment donné qui est révélé par une enquête journalistique, par des faits, par des événements, et qui vont, en étant spécialistes de cette question, essayer de faire le bilan. Comment est-ce qu'on en est arrivé à la réalisation de ce problème ? Quels sont les dysfonctionnements ? Et comment est-ce qu'on peut corriger ces dysfonctionnements ? Donc la dimension médiatique, en fait, elle arrive vraiment au second plan dans la réalité du travail parlementaire. Et les parlementaires utilisent le temps qui leur est laissé aussi. Depuis 2008, 15 jours sont réservés par priorité à l'ordre du jour du gouvernement, donc les projets de loi, et ensuite 15 jours pour les travaux des parlementaires, soit l'examen de leurs propositions de loi, dont certaines vont découler des commissions d'enquête, soit justement un travail de contrôle qui peut être typiquement du contrôle du gouvernement, mais qui peut aussi s'étendre à ces faits déterminés.
Un extrait, Sandrine Rousseau, de la commission d'enquête que vous présidiez, et une altercation qui avait fait, justement, dans le champ médiatique, un petit peu de bruit, une altercation avec le producteur et responsable des castings, Dominique Besnéard.
En fait, votre vision de la place des violences, de la manière dont on doit réagir aux violences, de celles qui ont du courage, de celles qui en ont moins, etc., façonne d'une certaine manière le cinéma français. Et donc, c'est en cela que nous avons des questions à vous poser. Parce que, évidemment, que quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien, derrière, vous envoyez un message
mais
à l'ensemble.
Mais c'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse, des choses que j'ai dites à une époque, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va.
Non, mais là, vous venez parler.
Si c'est mon
par
procès,
exemple,
je me taille tout de suite. Hein.
Mais
je vous
bah déjà, vous êtes dans une commission d'enquête. Monsieur
non, Bessner, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi?
Absolument.
Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolée, madame.
Absolument.
Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde.
Est-ce que je peux vous poser une question,
comment
monsieur?
Comment ça Bessner bien faire?
Une altercation qui a amusé tout le monde hein, dans ce studio, en tout cas à la réécoute. Sandrine Rousseau, quand on prépare justement une commission d'enquête parlementaire, est-ce qu'on se prépare aussi à un événement médiatique ou du point en tout cas un événement qui va être médiatisé?
Alors je voudrais dire que l'essentiel des commissions d'enquête ne sont pas du tout médiatisées. Le travail de
sont
la commission d'enquête... Ah oui, c'est public, mais pour autant, ça n'est pas forcément médiatisé. Je pense par exemple à la commission d'enquête qui a eu lieu sur l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui n'a été médiatisée qu'après la remise du rapport. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'arrive la médiatisation. Alors évidemment, il y a toujours une ou deux auditions qui font un peu parler d'elles. Celle-ci, en l'occurrence, a fait parler d'elles. Mais c'est rare, et ça n'est que la partie émergée de l'iceberg qui comprend une partie immergée très importante d'auditions qui sont sans doute extrêmement pénibles à écouter parce que très, très monotones et très... mais qui ont un rôle tout à fait essentiel pour construire la loi derrière.
Vincent.
Donc c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que les commissions d'enquête, c'est pas un lieu de clash, de buzz, de je sais pas quoi, c'est un vrai travail parlementaire au fond. Il peut y avoir des moments de tension, et ça me semble assez normal compte tenu de l'objet, mais ça n'est pas ça l'objet de la commission d'enquête.
Vincent Bruneau, qu'est-ce qu'un avocat vient faire dans cette affaire? Si je reformule ma question, comment vous préparez des dirigeants, des responsables d'entreprise à la participation à ces commissions d'enquête parlementaires?
Ben, déjà, le rôle de l'avocat, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'une commission d'enquête, comment est-ce que ça va se passer, le déroulé des auditions, et puis c'est d'assurer quand même une forme de préparation au droit de la défense, parce que Madame Rousseau l'a indiqué, il n'y a pas de sanctions qui sont prononcées directement par la commission d'enquête. Pour autant, les auditions, en règle générale, les auditions de grands chefs d'entreprise sont très médiatisées, et le moindre faux pas peut provoquer une sanction médiatique immédiate.
Vous dites préparation, pardonnez-moi, je vous coupe, préparation au droit de la défense, on a là le sentiment de reprendre un lexique lié à un procès judiciaire, en l'occurrence.
Absolument, parce que vous êtes convoqué devant une commission d'enquête, vous devez prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité, comme Mme Rousseau l'a indiqué, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous faites une erreur dans une commission d'enquête, potentiellement, il peut y avoir un déclenchement d'un article 40 du Code de procédure pénale pour parjure. Ça a été le cas, on parlait tout à l'heure de...
Si. Je vous ferai réagir sur l'autre.
Ça a été le cas, un exemple très concret, dans le cadre de la commission d'enquête McKinsey, et c'est d'ailleurs ça qui a donné beaucoup de retentissement à cette commission d'enquête, il y a eu une accusation de parjure qui a été formulée à l'encontre d'un associé du cabinet McKinsey. Ça a fait la une des journaux, ça a fait beaucoup de buzz. En revanche, je n'ai pas vu la moindre ligne dans les journaux lorsque il y a eu un non-lieu qui a été prononcé il y a quelques mois sur ce dossier.
Je vous fais réagir d'abord, Sandrine Rousseau, sur la première partie de la réponse, hein, les droits de la défense. C'est comme ça, vous-même, que vous abordez une commission d'enquête parlementaire. Il y a d'un côté la défense et les parties civiles, de l'autre, j'allais dire, entre guillemets, des inquisiteurs.
Non, parce que, en fait, une commission d'enquête n'a pas le droit de s'intéresser à un sujet qui fait l'objet d'une instruction judiciaire. C'est-à-dire que c'est interdit par la loi et par la Constitution. Donc, par exemple, encore une fois, dans la commission d'enquête que j'ai présidée, je n'ai pas auditionné Charlotte Arnoux qui a déposé plainte contre Gérard Depardieu, puisqu'il y avait une instruction judiciaire. Et donc, c'était en dehors du champ de la commission. Je n'avais même pas le droit, en fait, de l'interroger là-dessus.
Donc les deux, d'un point de vue temporel, sont distincts.
Voilà, exactement. Donc il n'y a pas d'accusé de partie civile, etc. Tout cela n'existe pas. Par contre, comme vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, il y a deux possibilités pour les parlementaires qui constatent que la vérité n'a pas été dite. La première, c'est le parjure, dont je précise quand même que prévenir le procureur qu'il peut y avoir un parjure, c'est risquer une amende, hein, c'est du civil, c'est pas du pénal, donc c'est quand même pas grand-chose. Et par ailleurs, le procureur peut très bien classer son suite ou donner un non-lieu. Et la deuxième arme que nous avons, c'est l'article 40, mais ça n'est pas la même chose. L'article 40, c'est quand nous sommes informés d'un délit. Par exemple, nous avons fait un article 40 parce que nous avons été informés de violences sexuelles sur des enfants, et donc nous avons fait un article 40. L'article 40, là, c'est autre chose, mais c'est parce que nous sommes informés de délit. Par contre, le parjure, c'est juste une amende, et je ne crois pas qu'il y ait aucune multinationale qui soit tombée pour parjure dans les mois précédant cette émission.
Vincent Brenneau, dans la préparation de ces auditions, comment vous abordez vous-même la question du parjure avec vos clients? Est-ce que c'est une question frontale que vous abordez, ou du moins vous la contournez?
C'est une question importante parce que ça relève du préjudice réputationnel. Se tromper sur un élément et...
Et du respect du Parlement, par ailleurs.
Ah, bien sûr, du respect du Parlement, mais une erreur, l'erreur est humaine, et c'est quand même très compliqué de se retrouver avec un signalement au procureur de la République sur le fondement du parjure. Dans l'imaginaire collectif, c'est extrêmement fort. Il y a assez peu de contrôle. Madame Rousseau le disait, effectivement, il ne peut pas y avoir de commission d'enquête sur des faits qui relèvent d'une instruction judiciaire en cours. Pourtant, c'est le cas. Ça arrive régulièrement. Encore tout récemment, il y a eu une commission d'enquête sur les manifestations qui se sont tenues entre mars et mai 2023 autour de Sainte-Soline. Et une commission d'enquête a été déclenchée sur ce sujet-là, alors même que des procédures judiciaires étaient en cours, et on a deux militants des soulèvements de la Terre qui ont refusé de se présenter devant cette commission d'enquête et qui ont été déférés devant la justice par le président de la commission d'enquête et qui d'ailleurs ont été relaxés le 17 janvier dernier. Donc cette frontière, le problème, c'est que l'incompatibilité entre une commission d'enquête et l'exercice de poursuites judiciaires en cours, c'est la commission d'enquête quasiment qui en est seul juge, même si le garde des Sceaux peut en être saisi, il formule une autre recommandation qui n'est pas systématiquement suivi.
Sandrine Rousseau, vous avez levé le doigt pour réagir.
Oui, par exemple, sur Sainte-Soline, la commission d'enquête ne s'est pas intéressée aux procédures en cours. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'empêche pas d'enquêter sur comment une manifestation peut-elle être interdite ou autorisée, quelles ont été les forces de l'ordre déployées à ce moment-là, quelles étaient la stratégie de sécurité. Tout cela n'entre pas dans l'instruction. Il n'y a pas de plainte contre la stratégie d'interdiction, par exemple, des manifestations. Donc tout ça, en fait, c'est parfois c'est un peu subtil. Parfois même, c'est même assez compliqué quand on préside une commission d'enquête de rester sur le bon côté de la frontière. Mais ceci dit, les administrateurs de l'Assemblée sont extrêmement vigilants, par exemple, à ce que nous ne la franchissions pas. Donc moi, pour quand j'avais des questions qui pouvaient rentrer dans le champ de la justice, j'avais immédiatement l'administratrice qui était à côté de moi qui m'a dit ça rentre dans le cadre de la justice, vous ne posez pas la question. Ce qui, du coup, nous permet de savoir exactement là où on peut mettre les pieds et là où on ne peut pas y aller.
Dorothée Régnier, qu'est-ce que ces commissions d'enquête, là aussi du point de vue de l'observatrice que vous êtes, ont permis de produire au cours des dernières années? On a parlé du champ extrêmement vaste de leur intervention, de leur domaine de réflexion. Du point de vue de la politique publique, est-ce qu'elles ont permis ou non de construire?
Peut-être pour revenir sur le débat précédent, il faut reconnaître aussi que les personnes qui sont auditionnées ont le droit de ne pas s'auto-incriminer, donc peuvent refuser sous certaines conditions de répondre aux questions. Ils ont aussi la possibilité de relire les dépositions qu'elles ont faites en tant que témoins. Mmh. Et si elles n'ont pas la possibilité de modifier, elles peuvent délivrer des observations qui peuvent être prises en compte au moment du rapport. Donc les droits de la défense sont quand même d'une certaine manière reconnus, quand bien même la commission n'est pas un tribunal.
Et il y a la possibilité de huis clos aussi.
Qui est à la discrétion de la commission.
Sandrine Rousseau et Vincent Brenneau ont ajouté la procédure de huis clos. Je vous laisse poursuivre, Dorothée Régnier. Vous êtes à distance.
Oui, donc sur la question que vous me posiez sur la production en fait des commissions d'enquête, l'idée étant de nourrir l'activité législative du Parlement, il y a effectivement des préconisations qui terminent le rapport, et ces préconisations peuvent devenir des normes et influencer alors peut-être pas directement le quotidien des citoyens, mais de manière indirecte. On se souvient par exemple que la commission Doutreau, alors qui est très ancienne aujourd'hui, mais qui avait vraiment marqué les esprits, avait permis de former la procédure de formation des magistrats de l'ordre judiciaire. Plus proche de nous, la commission Cahuzac a aussi eu quand même des répercussions sur la transparence de la vie publique et de la vie politique. La commission qu'on évoque par facilité, la commission McKinsey, a aussi débouché sur le dépôt d'une proposition de loi visant à interdire les missions pro bono, donc gratuites, offertes par les cabinets conseils, qui est encore en examen au Parlement, puisque la dissolution a un peu freiné son adoption.
Vincent Brenoy, est-ce qu'il vous semble que les acteurs économiques, les entreprises parfois que vous représentez, ont peur de ces commissions d'enquête ? Est-ce qu'elles les craignent ? Je me souviens d'une déclaration du PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui s'était dit choqué que l'on utilise les moyens de l'État pour enquêter sur une entreprise privée. Alors même si c'est pas en l'occurrence là les moyens de l'État, est-ce qu'il y a une crainte générale de ces milieux économiques à l'égard de ces moments d'audition ?
Ce sont tout à fait les moyens de l'État. Le Parlement est financé par l'État. Donc ce sont les moyens de l'État qui sont mobilisés. Et en l'occurrence, effectivement, si une commission d'enquête porte sur une entreprise, je partage parfaitement l'avis de Patrick Pouyanné. Ça n'est pas son rôle, ça n'est pas son objet. En revanche, effectivement, certains des exemples qui viennent d'être donnés de travaux parlementaires qui sont le fruit des réflexions qui ont été engagées dans le cadre de commissions parlementaires, ça, c'est le rôle du Parlement et ça, c'est très intéressant.
Sandrine Rousseau, est-ce que vous-même, j'allais dire cette crainte, comment vous l'abordez ? Est-ce qu'il y a un secret des affaires qui est respecté, par exemple, lorsqu'on va interroger un grand dirigeant d'entreprise sur la stratégie de sa société ou de sa firme ?
Alors, la commission d'enquête autorise aussi à aller chercher des documents, à les demander, etc. Donc, on a quand même une capacité à fouiller un sujet assez grande, hein, d'où le terme de commission d'enquête. Mais sur celle concernant Total Energy, par exemple, une des questions était de quels moyens bénéficie Total Energy de l'État français pour sa politique, enfin pour sa stratégie à l'étranger. Donc, en fait, c'est extrêmement important pour les citoyens et citoyennes, qu'on sache que quand Total fait un pipeline en Ouganda, eh bien, est-ce que l'État français l'a aidé ou ne l'a pas aidé, alors que ça passe au milieu d'un parc naturel, qu'il y a des opposants qui sont emprisonnés et qu'il y a des déplacements de population. C'est très important pour le citoyen français. Et du coup, ça permet derrière aux parlementaires d'adapter la loi, d'adapter les outils législatifs pour empêcher ou autoriser des choses.
On est bien là, Vincent Brenoy, dans un cas typique, j'allais dire, d'intérêt général. En tout cas, ça concerne le grand public, cette affaire.
Mais ça permet, alors, et là où c'est intéressant, c'est que ça permet également à l'entreprise, par exemple dans le cas que vous venez de citer, d'expliquer comment est-ce que ça fonctionne, de donner ses explications. C'est aussi pour ça que c'est important de bien préparer en amont des commissions d'enquête, parce que il est question de rétablir aussi un équilibre entre ce qui peut être annoncé de la part des politiques ou d'associations, et puis la vision de l'entreprise. Donc c'est très important. Un mot juste sur le secret. Le secret professionnel n'est pas opposable devant les commissions d'enquête. En tout cas, le secret des affaires. Certains secrets professionnels le sont, les secrets défense, sécurité le sont. En revanche, le secret des affaires ne l'est pas, et c'est la commission qui décide si oui ou non elle passe en huis clos pour auditionner un dirigeant d'entreprise. Ça peut poser parfois quelques difficultés.
La voix de Benjamin Morel, il est professeur de droit. Il était interrogé sur cette même chaîne par Marguerite Caton dans la question du jour.
Une commission d'enquête, ça n'est pas une juridiction. Une commission d'enquête n'établit pas une culpabilité. Quand vous sortez de la commission d'enquête, vous ne serez pas condamné individuellement à une peine, quelle qu'elle soit. Une commission d'enquête ne va émettre qu'un rapport. Et ce rapport ne portera pas sur votre culpabilité, mais sur des dysfonctionnements de l'administration, de l'État, d'une entreprise, d'un service public. Le problème, là encore, j'y reviens, c'est pas tant le principe, c'est vraiment la pratique. C'est-à-dire que, en effet, chez certains députés, pas chez tous, hein, une commission d'enquête où le sujet ne se pose pas, il y a une volonté de se montrer en procureur, de surjouer une sorte d'aspect très inquisitorial. à l'américaine en fait. Il y a vraiment l'image des commissions d'enquête américaines. Ça peut effaroucher un certain nombre de personnes auditionnées. Ça peut également effaroucher un certain nombre de téléspectateurs, d'auditeurs. Et dans ce cadre-là, eh bien, je dirais que les pratiques devraient un petit peu évoluer.
Une réaction, Sandrine Rousseau, sur ce procès qui est fait à plusieurs commissions d'enquête, sur, j'allais dire, ce procès en inquisition.
Bon, j'ai l'impression qu'on cette accusation d'inquisition, d'ailleurs, on devrait quand même regarder ce que c'est réellement l'inquisition et arrêter avec ça, parce que en l'occurrence, là, on parle du Parlement, de son droit de contrôle, de son de sa capacité à faire des lois et derrière de la capacité qu'il a aussi à verser des éléments à la justice s'il trouve des éléments à charge. Bon, moi, je n'ai pas vu. Un exemple, enfin très ponctuel, je n'ai pas vu de député qui faisait le show là-dessus. Et ça n'est pas vrai du tout. Pour une raison très simple, c'est que nous travaillons en fait. Et que je pense d'ailleurs que les électeurs nous le reprocheraient beaucoup de faire du show personnel sur des questions aussi importantes que celles-ci. Et donc nous faisons un travail au fond, un travail minutieux, un travail parfois fastidieux, un travail extrêmement prenant. Moi, pendant 6 mois par exemple, je n'ai quasiment pas pu aller sur ma circonscription tellement cette commission d'enquête m'a pris du temps. Et c'est normal parce que c'est un sujet d'intérêt général. Donc voilà, je pense que ces accusations visent à délégitimer un travail parlementaire essentiel, une forme de contre-pouvoir dans notre démocratie qui en manque quand même, ou dont les contre-pouvoirs sont de manière régulière attaqués. Et donc, je voudrais, moi, défendre vraiment avec beaucoup de virulence, mais aussi avec, au nom de l'intérêt général, la capacité à créer des commissions d'enquête par le Parlement au titre de droit de tirage, ou alors le droit de tirage, qu'on explique un peu, c'est chaque groupe parlementaire a un droit de tirage. Donc nous, par exemple, les écologistes, on a une commission d'enquête par an. Et derrière, il peut aussi y avoir des commissions qui se constituent en commission d'enquête. Typiquement, c'est le cas aujourd'hui sur Betaram. Et derrière, il y a près de 100 plaintes d'enfants qui parlent de maltraitance. Et donc, il est absolument essentiel que nous explorions comment est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible qu'il y ait des maltraitances qui ne soient pas signalé, contrôlé et géré par les politiques publiques.
Vincent Bruno, une réaction ?
Je vous rejoins, il y a des causes qui sont absolument indispensables. Simplement sur le droit du Parlement de créer des commissions d'enquête, une observation concernant par exemple le Sénat. Au Sénat, entre 1959 et 2015, il y a eu 37 commissions d'enquête qui ont été créées. Entre 2016 et 2014, il y en a eu 22. Ça représente 2024, pardon. Oui. Ça représente une augmentation de rythme de création de commissions d'enquête de 275%. Donc je pense que le Parlement a tout à fait la possibilité de créer des commissions d'enquête.
Mais on pourrait se dire, on pourrait vous opposer à ça, le fait que simplement le Parlement améliore ses pratiques et qu'il se saisit d'un outil utile pour l'intérêt général.
Le Parlement fait parfaitement son travail de ce point de vue-là. Quand il s'intéresse à des sujets qui relèvent de l'intérêt général et pas qui relèvent d'une entreprise donnée pour des fins qui ne sont pas celles qui sont normalement assignées aux commissions d'enquête.
Dorothée Régnier, comment vous abordez vous-même, j'allais dire, ce débat ? Est-ce que vous trouvez également que les termes d'inquisition, d'inquisiteur, d'inquisitrice, tout cela est un peu fort ?
Oui, comme Sandrine Rousseau, on a tous un exemple au moins en tête d'une commission où effectivement le président ou le rapporteur est un peu sorti de son rôle, mais effectivement.
Alors à laquelle pensez-vous là pour être transparent?
À la commission d'enquête sur la distribution des fréquences TNT.
Très bien, je vous laisse poursuivre.
Oui, donc mais c'est vraiment l'exemple qui va démentir le travail parlementaire qui est quand même globalement pas un travail de buzz. Les travaux des commissions parlementaires sont des travaux sérieux, y compris les commissions d'enquête qui recherchent la satisfaction de l'intérêt général. Et en fait, l'intérêt général et les intérêts privés vont se concilier. Il n'y a pas de raison que les intérêts d'une entreprise privée soient considérés comme devant échapper au Parlement et aux commissions d'enquête. C'est une rhétorique que j'ai un peu du mal à cerner. Et ensuite, on voit que les commissions d'enquête vont essayer d'adapter une organisation qui soit conforme au droit, et notamment aux éléments qu'on évoquait tout à l'heure sur le rôle, la place du témoin. On voit qu'ils peuvent se faire assister par un avocat. Et on a tous aussi en tête l'image de l'audition d'Alexandre Brenala dans les commissions au Sénat. Et il se retournait assez souvent vers ses conseils pour savoir est-ce que oui ou non il avait le droit de parler, est-ce que les faits, la question qu'on lui posait était soumise au juge ou est-ce que au contraire il devait y répondre. Donc ils sont pas à ce point abandonnés les témoins face à des inquisiteurs, pour reprendre le terme qu'on avait tout à l'heure, et on n'aurait pas une super puissance de la commission d'enquête face à des individus esselés.
Sandrine Rousseau.
Oui, quand on revient sur la question des entreprises, je rappelle quand même que les commissions d'enquête qui ont touché les entreprises étaient Lactalis sur les marges et sur la répartition des marges entre les producteurs et les consommateurs, ce qui en période d'inflation a quand même son importance. Quand on parle de McKinsey, la question est de savoir quelle est l'espèce de retour d'ascenseur, et c'est ça qui a été exploré par la commission d'enquête. Quand on parle de Total Energy, c'est sur des exactions qui, si elles sont avérées, ont pu bénéficier de politiques publiques, de la diplomatie française, etc. Donc en fait, ça concerne véritablement à la fois la France, à la fois le législateur, mais aussi le contrôle du gouvernement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un contrôle des aides publiques qui ont pu être données, des moyens de l'État qui ont pu être mis à disposition, ou de l'efficacité ou pas de telle ou telle politique publique. Donc c'est en cela que ça renvoie à l'intérêt général, et que ça n'est pas juste le fait de cibler une entreprise en particulier, c'est véritablement de savoir à quoi est utilisé l'argent public, et comment les politiques publiques servent l'intérêt général ou au contraire des intérêts particuliers.
Une réaction, Vincent Bruneau, sur ce point précis. En l'occurrence, il est vrai, je pense même à Nestlé, c'est l'interaction avec les pouvoirs publics qui intéresse très souvent les parlementaires dans ce type de commission d'enquête.
Alors, si vous me permettez d'abord un mot sur McKinsey, il y a un élément de notre droit qui est important qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc la notion de retour d'ascenseur, c'est évidemment également...
C'est pour ça que je disais qu'on explorait cette question.
Enfin voilà, c'est quand même important de le préciser. Sur votre question... La frontière est extrêmement ténue entre quelle est la manière dont le gouvernement interagit avec une entreprise privée et une entreprise privée. Pour avoir effectivement accompagné un certain nombre d'entreprises privées dans le cadre de commissions d'enquête, il y a énormément de questions qui sont posées qui n'ont aucun rapport avec une interaction gouvernementale quelconque, mais qui viennent s'interroger sur la gestion de l'entreprise, la façon dont l'entreprise gère ses affaires, et on est très loin de la question...
Par exemple ?
Non, je n'ai pas d'exemple parce que je suis tenu au secret professionnel sur un certain nombre de sujets, mais ces questions, et vous pourrez revisionner un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait éloignés des rapports avec le gouvernement. Et je rappelle juste un point sur l'avocat. M. Benalla se retournait régulièrement. Pourquoi est-ce qu'il se retournait ? Parce que devant une commission d'enquête, l'avocat est taisant. Il n'a pas le droit de prendre la parole, il n'a pas le droit de s'exprimer pour le compte de son client. Et les garanties dont disposent les auditionnés devant une commission d'enquête sont quand même assez faibles par rapport à celles dont bénéficient, j'ai pas jamais employé le mot d'inquisiteur, mais en tout cas, devant une juridiction, on a le droit de connaître les faits qui vous sont reprochés, on a le droit d'avoir un accès à son dossier, on a le droit de garder le silence, on a le droit de contester la valeur probante d'un témoignage, on a le droit à être assisté effectivement par un avocat, on a le droit de contester le rapport, on n'a pas le droit de contester le rapport final de façon contradictoire dans une commission d'enquête, on n'a aucun des droits d'un prévenu classique ou d'un justiciable classique devant une commission d'enquête.
Dorothée Régnier, comment est-ce que la France se situe par rapport aux autres démocraties occidentales en la matière ? Est-ce qu'on a été un peu plus long que les autres à, j'allais dire, se saisir de ces commissions d'enquête ?
Alors déjà, pour répondre à l'intervenant précédent, excusez-moi, c'est justement parce que c'est pas un tribunal qu'il y a tout un ensemble de procédures qui ne sont pas les mêmes et qui garantissent pas à l'avocat le droit d'intervenir. Et ensuite, disons que on a été une démocratie assez lacunaire s'agissant des commissions d'enquête jusqu'en 2008, puisque auparavant, en fait, quand n'existait pas le droit de tirage, il fallait que chaque assemblée examine politiquement l'opportunité de créer une commission d'enquête. Et comme les commissions d'enquête peuvent porter sur une politique publique, sur une action du gouvernement, sur un service public, sur une entreprise nationale, la majorité était peu encline à encombrer le gouvernement avec une commission d'enquête. Donc il y a vraiment un renouveau des commissions d'enquête en France depuis la création du droit de tirage depuis 2009 au Sénat et un peu plus tard à l'Assemblée. Les autres États, et on pense notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça fait partie de la culture populaire quasiment, la culture constitutionnelle, c'est certain, mais même de la culture populaire, ces commissions d'enquête, pour preuve le nombre de séries ou de films qui vont mettre en scène une commission d'enquête. Moi, j'ai vu même des commissions d'enquête dans Jurassic Park. Donc, c'est vraiment pas l'endroit où on penserait immédiatement en retrouver une.
C'est vrai que c'est un champ d'intervention extensif, là.
Oui, et donc effectivement, ça traduit ces éléments. Et ensuite, quand on se rattache plus à la vérité, on a évidemment l'image de Mark Zuckerberg face à la commission d'enquête où il est auditionné, où il est titillé. Mais il y a des tonnes de commissions d'enquête aux États-Unis dans un régime qui n'est pas le même que le nôtre, où les parlementaires ont beaucoup plus de moyens pour aller rechercher les éléments, investiguer, titiller.
Merci beaucoup à tous les trois de ce débat, de cette intervention. Pardon, Vincent Bruneau, vous souhaitiez réagir. Sandrine Rousseau, vous êtes députée écologiste de Paris. Vincent Bruneau, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debouzy. Dorothée Régnier, maître de conférence en droit public à Sciences Po Lille.